Merci pour ces remerciements et ces explications. Voilà, le débat de ce soir est un peu perturbé parce qu'on a des problèmes de connexion, on a des problèmes de tout, justement de Wi-Fi. Mais on va réussir à s'en sortir, je ne sais pas trop comment, mais on va s'en sortir. Si, on va s'en sortir parce qu'on a des intervenants de qualité et qui, de toute façon, peuvent remplacer les intervenants qui ne pourront pas être disponibles. Notamment, je crois qu'on n'aura pas Calimac ce soir, Lionel Morel, qui devait intervenir en direct du Canada. Mais en 3G, c'est très compliqué. Donc ce débat, en fait, de ce soir, vient clôturer la journée pendant laquelle on a abordé beaucoup de sujets. Et alors, je ne sais pas si tout le monde a suivi toute la journée, mais en début d'après-midi, on a eu un long débat avec Michel Briand, qui est toujours là, où on a parlé de comment les logiques en œuvre dans Internet viennent chambouler les modes de consommation et de production et d'organisation, notamment au niveau local, dans la société. Donc ça peut aller d'expérimentation menée à Brest, autour de réseaux coopératifs pour montrer aux gens ce que les technologies peuvent apporter, ou pour revivifier un quartier en se repenchant sur la mémoire collective. Les exemples vont dans tous les sens. On a vu aussi des exemples très concrets de Le Bon Coin. Le Bon Coin, c'est de la consommation collaborative, parce que quand on revend un objet qu'on a déjà utilisé, on est dans une autre forme de consommation qui n'est plus le « j'achète, je n'utilise plus, je vends, je jette ». Mais au contraire, je réutilise. Donc ça, c'était le côté, ce que les outils d'Internet, la logique d'Internet peut apporter de positif aux transformations de la société et de très concret aujourd'hui, et qui sont des modèles en train de devenir dominants pour certains. Ensuite, on a eu un très beau débat sur la surveillance généralisée et tous les risques qu'induisent Internet autour de Prism. Et maintenant, on voudrait, dans un premier temps, se concentrer sur un peu les bases et les bases de l'écologie, d'où est Yuri Lilich, mais aussi les bases du logiciel libre. Et donc, on a Jeanne Tadeuse de l'April, qui est l'association pour la défense et la promotion du logiciel libre. Ensuite, on devait avoir, alors je pense qu'on n'aura pas, Calimac. Je vous invite à aller regarder sur Internet, on mettra tous les liens. Qui, avec le collectif Savoir Commun, a fait une proposition très concrète de réforme du droit d'auteur. On aura ensuite, si elle se sort de la réunion où elle est, Sandrine Bélier, qui fera le lien, ou on fera pour elle le lien, entre les combats sur le droit d'auteur, le logiciel libre, tout ce qui s'est passé autour d'ACTA, qui faisait le lien avec la biodiversité, le brevetage du vivant et tout ce qui est la défense des biens communs. Et donc c'est tout ça que Yann Mouillet-Boutang est venu spécialement pour nous, expliquer comment on peut s'en sortir par le haut et comment on peut avoir un espoir que le capitalisme se transforme et intègre dans sa logique ce qu'on appelle les externalités positives et toutes les logiques d'essaimage, de pollinisation, qui sont ses spécialités, vu que je ne l'ai pas présenté formellement, mais Yann Mouillet-Boutang est philosophe et essayiste. Je vous invite à lire « Le capitalisme cognitif », c'est passionnant, mais c'est un peu ardu. Par contre, « L'abeille et l'économiste », c'est très facile à lire et c'est très passionnant. Et pour apporter de la vie dans tout ça et pour rebondir sur à peu près toutes ces thématiques-là, nous avons André Gattolin, qui est sénateur des Hauts-de-Seine, et qui a une... je sais même plus tout ce que tu as comme casquette, mais un grand érudit. Un grand érudit. Bah si, quand même. Enseignant de culture générale, non ? Culture générale. Voilà. Donc, dans ce déroulé qui va nous amener relativement pas trop tard, on va essayer. On va commencer tout de suite. Donc, Sandrine, si tu peux nous rappeler un peu comment les grands penseurs de l'écologie, est-ce que déjà, dans leur critique de la société, dans les questionnements qu'ils avaient, est-ce que déjà, on voyait poindre toutes les questions qui nous arrivent aujourd'hui ? Et voilà, j'espère que tu vas dire oui.
La réponse est oui, ça tombe bien. Alors déjà, je suis contente d'être là parce que la technique est un sujet profondément écologiste. Je pense même, et j'y réfléchissais en venant là entre deux activités. Ah mais c'est pas mal quand les cigales s'arrêtent là, par exemple. Je me disais que finalement, ce qui nous différencie des autres partis, c'est presque principalement ça. L'identité écologiste, elle est autour de l'appropriation de la technique et de la place de la technique dans la société. Et ce qui nous différencie des autres programmes, c'est cette absence de dévotion, je dirais, au progrès technique et à ce qu'il peut apporter de toujours bon, toujours forcément meilleur, puisque c'est du progrès technique. Et là-dessus, les grands penseurs de l'écologie ont très vite perçu cette chose-là. Moi, je voudrais juste citer Illich, que j'aime vraiment beaucoup, qui suscite chez moi beaucoup de réflexions à chaque fois que je le lis, et qui a vraiment décortiqué, à mon sens, pas mal ce processus, avec Ellul derrière, de technique comme espèce de nœud d'un problème de désappropriation du citoyen de l'objet citoyen et aussi d'un progrès technique qui est sans fin et qui en fait ne génère que des frustrations au fur et à mesure où ça se produit. Alors Illich, il a deux grandes réflexions là-dessus qui sont, mais j'imagine que Yann s'en parlerait mieux que moi, mais il y a deux sujets sur lesquels il s'interroge beaucoup. Le premier, c'est comment cette espèce de progrès technique, de technique, crée des experts qui, du coup, enlèvent aux personnes tous les savoir-faire dont ils sont possesseurs et défenseurs. Et le fait qu'on mette de la technique, qu'on mette des gens qui s'occupent de cette technique, ça a pour conséquence que les personnes ne se sentent plus investies des rôles dont ils doivent être investis. Et les deux exemples qu'il cite, les deux exemples pour moi principaux, c'est un sur l'éducation et l'autre sur la médecine. La médecine, ce qu'il dit, c'est qu'on est allé sur une technicisation de la médecine qui fait qu'à la fin, on n'a plus le sens commun, on n'a plus cette espèce de bon sens qui fait qu'on sait, quand on est malade, on sait aussi se soigner et on sait comment faire pour s'en sortir. Et ce qu'il dit, c'est qu'on est dans un processus qui, certes, crée de la richesse économique, qui crée du PIB, mais qui, au final, ne crée pas de richesse sociale. Et là-dessus, il cite l'exemple du cancer du sein et une étude américaine du cancer du sein où il montre qu'il y avait deux groupes de patientes qui ont subi des examens de prévention des cancers du sein, donc des mammographies. Et il y avait un groupe de patientes auxquelles on ne disait pas si elles avaient un cancer ou pas, et un autre groupe de patientes où on disait, elles entraient dans un protocole de soins. Et ce qu'ils montrent, alors moi j'ai jamais eu l'étude en main, hein, donc je redis ce que dit Illich. Ce qu'ils montrent, c'est que dans le groupe où il y a eu cette prévention, où il y a eu cette technicisation, où il y a eu une remise en main par les experts du soin du cancer du sein, il y a eu non seulement plus de cancer du sein que dans l'autre groupe, mais en plus il y a eu plus de mortalité par le cancer du sein. Et j'en ai parlé un jour avec un directeur de l'agence régionale de santé du Nord-Pas-de-Calais d'où je suis, en lui disant, mais est-ce que c'est vrai cette histoire de est-ce que finalement la prévention, les échographies, tout ça dans la médecine, est-ce que finalement c'est si efficace que ça? Et lui, qui est quand même garant de la politique gouvernementale en l'occurrence, m'a dit, mais c'est pas vrai sur le cancer du sein, parce qu'il y a d'autres études qui ont montré que c'était pas vrai sur le cancer du sein, mais par contre sur d'autres cancers, réellement le fait de faire de la prévention et de faire de la médicalisation immédiate des cancers a plus d'effets néfastes, crée plus de mortalité que si on n'en fait pas. Et ce qu'il dit, c'est que cette technique, finalement, que l'on pense nécessaire, elle devient absolument addictive parce qu'on est inquiet de ne pas l'avoir, mais au final, elle n'est pas si efficace que ça. Et puis l'autre exemple qu'il cite, c'est sur l'éducation, où, alors là, ça va pas te plaire, mais moi je suis prof aussi, et donc voilà, on va se retrouver là-dessus, c'est de dire que qui dit technique dit expert et dit dépossession de savoirs ancestraux et de savoirs parentaux. Et donc sur l'éducation, les parents ont toujours éduqué les enfants, les milieux familiaux, les communautés ont toujours éduqué les enfants. Ce qui a changé, c'est qu'on a confié à l'école et donc à un système socio-technique, en quelque sorte, la compétence de former des enfants. Et du coup, les parents se sentent totalement dépossédés de cette mission d'éducation, ce que je pense partiellement vrai par ailleurs, mais se sentent dépossédés de cette mission d'éducation. Et au final, on pense avoir créé de la richesse, mais on n'en a pas. Et Ellul décrypte aussi un peu ce phénomène de technicisation en disant, à un moment donné, les gens n'ont pas envie d'être libres et n'ont pas envie de gérer complètement leur vie. Ils ont besoin de s'en remettre à un système qui les rassure, qui les conforte et qui les encadre. Et ce système, ce qu'a inventé le capitalisme, c'est que ce système, c'est la technique. Et dans le processus comme ça de croissance, de progrès, eh bien, on crée une addiction de plus en plus forte à la technique qui fait que on se croit libre dans un système où en fait on ne l'est plus. Et ce qui est caractéristique, c'est l'échange d'informations. Donc avant, l'idée d'Ellul, c'était qu'il y avait des machines et qu'il y avait des ouvriers qui dirigeaient les machines et qu'à partir d'un certain moment, l'information, l'automatisation fait qu'il n'y a même plus besoin de cette force humaine pour diriger les machines. Et du coup, il y a une espèce d'autonomie de ce système de techniques et de progrès qui fait qu'on est complètement dépossédé de ce dont on doit être maître, c'est-à-dire que l'outil n'a de sens que si l'homme en est maître et si l'homme peut s'en servir. Et je pense que dans les nouvelles technologies, il y a beaucoup d'ambiguïté, enfin dans les réseaux sociaux, etc., il y a beaucoup d'ambiguïté autour de ces questions-là, parce que tout le monde se glorifie beaucoup des révolutions arabes qui ont été faites via Facebook, via ça. On a même des écrits de par exemple Jérémy Rifkin qui dit maintenant le système énergétique, la distribution d'énergie va ressembler à un système de type internet, c'est-à-dire que chaque maison va produire sa propre énergie et ce sera un système de coopération comme ça et d'échange et il n'y aura pas de centralisation de l'outil technique. Et moi, enfin là-dessus, ce sur quoi je suis toujours vigilante, c'est que Internet, si vous regardez, ça a créé aussi, ça a créé des espaces d'échange, ça a créé de nouveaux espaces démocratiques, ça a créé des endroits où on peut discuter entre citoyens. Alors là, en fait, plus le soleil tombe et moins je vous vois dans l'assistance, donc j'ai l'impression de parler à des ombres, c'est extrêmement étonnant. Et donc Internet a créé tous ces espaces d'échange, cet accès à l'information, c'est indéniable, mais en même temps, sur le plan économique, il a créé aussi des monopoles mondiaux que l'on n'avait jamais connus jusqu'à présent. Facebook, Twitter, Google sont des monopoles ou sont des quasi-monopoles à l'échelle mondiale et qui détiennent un nombre de données absolument incroyable sur les personnes. Et on n'a jamais connu une situation dans l'histoire comme ça, on n'a jamais connu une situation à ce point-là de monopole technique sur des données personnelles. Et donc je pense qu'il faut avoir un regard extrêmement critique et serein, enfin il faut avoir un regard écologiste en fait sur ces questions-là pour se réapproprier des outils de communication pour que ce ne soit justement pas une dépossession encore supplémentaire de notre identité, parce que finalement le jour où ces grandes firmes comme elles commencent à le faire vendent nos données personnelles et ça, on a une dépossession encore plus grande finalement de notre propre information que ce que l'on avait avant. Et donc en tous les cas en tant qu'écologiste, je ne voudrais pas avoir une vision trop idyllique de ces réseaux sociaux et de tout ça, parce que je pense qu'il faut toujours être extrêmement vigilant sur derrière la concentration que dénonçait Ellul et qui est au centre d'un problème vraiment de dépossession du citoyen de son outil et donc de notre avancée, de notre progrès collectif. Voilà. Je ne sais pas si c'était très clair, je suis désolée parce que je suis un peu fatiguée. J'espère que ça va.
Merci. Voilà. Alors, je vais passer la parole à André qui va donner ses propres références dans le... Non, toujours dans le même esprit de la réflexion et de la pensée, qu'est-ce qui lie l'écologie politique à la réflexion sur les nouvelles technologies et aujourd'hui sur Internet. Je crois qu'il y a... Alors c'est un problème qu'on a en France, mais qu'on a plus généralement en Europe. On a une lecture de l'écologie politique qui est très européocentrée, c'est-à-dire sur la manière dont l'écologie politique est apparue dans les années 70-80 autour d'un certain nombre de luttes. Une convergence de luttes tiers-mondistes, antinucléaires, régionalistes, féministes, et aussi de la contestation politique de la fin des années 60. On a un phénomène, on a aussi une culture de l'écologie politique nord-américaine, et qui, à mon sens, est particulièrement intéressante pour saisir la relation qu'il peut y avoir entre une pensée de l'écologie politique contemporaine aujourd'hui et la relation à la technologie et à la science. J'entends par là que l'écologie politique après 68, surtout à partir des années 70, s'est fondée dans la lignée des contestations type mai 68 qui était quand même largement piloté, entre guillemets, ou porté par des étudiants ou des gens qui étaient plutôt originaires du monde de la littérature, des sciences sociales, très peu des milieux techniques, scientifiques. D'ailleurs, il y avait une vraie dialectique entre école de médecine et école d'ingénieur, qui trouvait parfait la politique étatique de croissance prônée par le gaullisme et par le pompidolisme ensuite, et puis une culture de protestation, de contestation de la croissance, mais aussi de l'évolution du système, qui s'est fondée sur une technophobie, parfois, au mieux un discours critique sur la science, notamment tout le travail qui a été fait par un certain nombre de titres comme Impatience ou des revues scientifiques comme Alliage de Jean-Marc Lévy-Leblond, qui ont essayé de s'intéresser à la science d'un point de vue critique. Mais très souvent, la question scientifique ou technologique a été un petit peu mise en marge, voire méprisée, parce que la science, c'est ce qu'on nous imposait d'en haut, c'était le nucléaire, c'était un certain nombre de recherches technologiques d'État très liées à la défense, ce qui fait que l'écologie, pendant longtemps, a eu du mal à s'approprier la question de l'innovation scientifique et technologique. Et finalement, l'émergence d'Internet à partir des années 90 et surtout dans les années 2000 a remis la question de la place de l'usage des technologies au sein de nos sociétés et notamment au sein de la réflexion sur l'écologie politique. Aux États-Unis, c'est un petit peu différent parce que le système de campus américain qui est pluridisciplinaire a fait que très tôt, y compris dans la contestation des années 60, les gens issus plutôt des formations littéraires et sciences sociales étaient en contact permanent avec les gens qui étaient dans la technique, dans la découverte et la recherche scientifique. Et pour moi, il y a deux penseurs qui sont tout à fait importants, qu'on connaît pratiquement pas en France. D'abord, il y a un personnage qui s'appelle Stuart Brand, qui est né en 1934, qui était un scientifique, qui a participé aux travaux des services américains, notamment sur le LSD, avec un certain nombre d'autres gens beaucoup plus connus que lui. Il a fait partie des Merry Pranksters, qui étaient les gens qui prenaient dans les années 60 l'usage notamment du LSD, des possibilités de développement que ça donnait pour le cerveau, qui était au départ une recherche militaire pour savoir, et puis qui est devenu un instrument de la contre-culture. Et Stuart Brown, très tôt, grâce à au mélange incroyable de parcours des campus américains, s'est rapproché de ce qui était sans doute le symbole de la culture psychédélique américaine, c'est le groupe Grateful Dead, dont il a été une sorte de metteur en scène, de conseiller, d'accompagnateur. Donc un mélange entre un pur scientifique, homme de la technique, y compris ingénieur du son, avec des gens qui étaient dans la contestation des droits civils, contre la guerre du Vietnam. Et Stuart Brown, au tout début des années 70, a une forte prise de conscience écologique et crée le premier réseau mondial écologiste, qui est le World Earth Network, le réseau de la Terre entière, qui est le premier élément qui cherche à connecter des luttes et une réflexion sur l'environnement. Et ce même personnage, en 73-74, passionné par les technologies et les technologies de l'information, va, dans ses articles, élaborer, concevoir théoriquement ce que vont être les premiers micro-ordinateurs et la mise en réseau des ordinateurs. Cet homme-là, Stuart Brand, aux États-Unis, est reconnu comme un des papes de la contre-culture et de la cyberculture. Malheureusement, il est totalement inconnu en France. Il y a une très belle biographie qui est sortie de lui il y a 4 ans qui s'appelle « From Counterculture to Cyberculture », de la contre-culture à la cyberculture. Et c'est quelqu'un qui a porté, à travers ses regards croisés, c'est-à-dire à la fois du discours critique et de la contestation, de l'expérimentation scientifique, a porté énormément à la réflexion sur l'écologie politique en Amérique du Nord et aussi sur le développement d'Internet et des réseaux et de l'ordinateur, non plus Big Brother, grosse machine, mais machine décentralisée fonctionnant en réseau et en collaboration. Et donc ça, c'est une des forces de l'écologie politique nord-américaine, c'est cette capacité à intégrer la science avec ses défauts, ses critiques, mais aussi la capacité à la porter vers des usages qui sont plus des usages, je dirais, souverains, étatiques, centralisés, mais d'en faire des transformations sociales, des moteurs de transformation sociale. Et puis le deuxième auteur, là aussi totalement inconnu en France, le seul papier qui lui est consacré a été publié dans Multitude, je crois que c'est moi qui l'ai écrit d'ailleurs il y a quelques années, c'est quelqu'un qui s'appelle Lothar Gerlach, qui était un sociologue, qui avec Gerhard Inheim, qui était une anthropologue, ont essayé de comprendre comment étaient apparues les associations et les mouvements de contestation environnementaux aux États-Unis de 1965 à 1969. Et dans leurs premiers travaux, qui est publié en 70-71, ils créent un modèle qu'ils appellent le SPIN Model, Segmentary Polycentric Integrated Network, le réseau intégré composé de multicentres, donc sans gouvernance et segmenté, c'est-à-dire avec des compétences propres. Ce modèle, c'était l'illustration de la manière dont l'écologie s'est fondée aux États-Unis, contestation diverses et variées contre l'arme nucléaire, mais aussi contre les déchetteries, contre les autoroutes, avec des mobilisations locales extrêmement fortes, ce qu'on appelait les NIMBY, Not in my backyard, ne construisez pas ça près de chez moi, allez le faire ailleurs, qui, d'une logique tout à fait localière de défense des intérêts face à des questions environnementaux, avec l'agrégation de la contestation sur les droits civiques, du refus de la guerre au Vietnam et aussi de la mobilisation étudiantine, s'est mis en réseau, en tache de panthère à travers le territoire. Et ce que notent Gerlach et Hein, c'est que tout ça s'autogouverne avec des nœuds qui apparaissent, qui disparaissent, des leaders provisoires, mais qu'un véritable réseau intégré se construit. Et je cite Gerlach parce que son analyse de ce qu'on appelle le SPIN model a été repris à partir des années 80 et des années 90 par tous les gens qui ont essayé de théoriser Internet et la mise en réseau et l'espace coopératif, collaboratif. Et là encore, on est dans un mélange où écologie, sciences sociales, réalité sociale, mais aussi technologie se rencontrent. Alors je voulais insister sur cet aspect-là parce que c'est vrai que Internet et les nouvelles technologies, c'est quelque chose qui est en évolution permanente. Et il y a des discours de réflexion, qu'on pourrait dire universitaire, scientifique, intellectuel, de grande valeur. Et puis parallèlement à ça, les gens qui sont les entrepreneurs, les gens qui développent ces technologies construisent aussi des discours théoriques où nous sommes en train de tout changer, c'est la révolution technologique, on a créé une nouvelle société de partage et c'est ce qu'on appelle en sciences de la communication des discours d'escorte, c'est-à-dire qu'on fait de l'auto-justification à travers la théorie de ce qu'on a envie de prôner pour dire « regardez mon instrument comme il est beau et comme il est intelligent ». Et ce qui est intéressant, c'est que ce que montre ces travaux, notamment ceux de Gerlach, c'est que la volonté coopérative, collaborative, elle existait dans la société bien avant l'émergence d'Internet, qu'Internet a donné de nouvelles possibilités, de nouvelles capacités de développement, et que les théoriciens même du réseau et d'Internet sont allés chercher chez des gens comme Gerlach, qui analysent les mouvements de protestation écologique, pour théoriser leur propre devenir. On pourrait citer aussi dans cette logique la réflexion plus philosophique, mais ça je laisserai plutôt à Yann le soin de faire ça, mais ce que les écrits de Deleuze et Guattari, notamment Rhizome, qui est publié en 1976 et qui va devenir le premier chapitre de 2000 plateaux, ouvrage qui a marqué et qui marque encore des générations de gens qui pensent la société, la philosophie et le devenir aussi de notre organisation. Là aussi, la réflexion de Guattari et de Deleuze, elle est bien en amont de la mise en forme des organisations rhizomatiques telles que on tente parfois de nous faire croire que Internet les a créées. Internet les a rendues possibles, elle les a transformées, elle a créé un monde virtuel, comme disait Frédéric tout à l'heure, elle renvoie aussi vers le monde réel à travers des systèmes collaboratives qui ne sont pas simplement des monnaies d'échange virtuelles, immatérielles, mais qu'elle remet en jeu et en scène, peut-être parce que l'organisation de nos sociétés est trop technocratique, trop centralisée ou trop administrative, donc elle recrée du lien social, mais ce lien social est immanent à la valeur de la société coopérative, et qu'on peut trouver un lien entre cette culture Internet et la réalité d'une aspiration sociale qu'on aurait qualifiée en d'autres temps autogestionnaire ou co-gestionnaire.
Merci. Donc, je pense qu'on a bien situé, enfin, c'était l'ambition de cette double intro, comment toutes ces problématiques sont fondamentalement liées à l'histoire de notre mouvement. Et donc on va prendre maintenant l'autre côté en parlant avec Jeanne, enfin, en écoutant Jeanne. Donc Jeanne Tadeuse qui est chargée des affaires publiques au sein de l'April et qui va revenir sur les fondamentaux du logiciel libre.
Merci beaucoup. Donc Expliquer, je suis Jeanne Tadeuse, donc je suis chargée des affaires publiques à l'April, qui est l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Alors pour préciser tout de suite et pour situer, je ne suis pas geek, je ne suis pas informaticienne, la technique c'est pas forcément mon truc, très loin de là au départ. Mais par contre, s'il y a quelque chose qui m'a très vite frappée depuis longtemps, et même pour situer plus précisément, c'est depuis tout ce qui s'est passé autour de la loi DADVSI, et tout ce qui s'est passé autour d'Adopi, c'est que quand on se mettait à parler de numérique et qu'on se mettait surtout à parler des outils, des logiciels et de tout ce qui était autour de ça, c'est là qu'allaient se jouer les plus grands combats, notamment pour la liberté d'expression aujourd'hui. Alors voilà, c'est quelque chose qui m'a aussi intéressée dans les différentes interventions qu'on a pu entendre aujourd'hui. J'ai eu l'impression qu'on a beaucoup parlé d'usage, c'est quelque chose d'important effectivement, de tout ce qui est technologie, de tout ce qui est Internet, mais il y a aussi la question des outils, parce que simplement si on ne maîtrise pas les outils, on devient complètement dépendant d'un certain nombre de monopoles, et ça a été très justement expliqué auparavant, de ces monopoles qui peuvent décider d'interrompre leur service, de faire autre chose que ce qu'ils disent de faire aussi, par exemple, parce que fondamentalement, vous leur faites confiance pour ne pas divulguer vos informations, pour ne pas les revendre, pour aussi ne pas aller regarder dans votre ordinateur ce qui s'y passe. Et donc c'est pour ça que revenir quelque part aussi sur les fondamentaux de ce qu'était l'informatique à l'origine et de ce que sont les logiciels libres me semble important dans ce type de discussion. Alors, qu'est-ce que c'est que le logiciel libre ? Alors, le logiciel libre, en réalité, il se définit... Simplement par l'existence de quatre libertés, donc quatre libertés qui définissent la licence et les conditions d'utilisation. C'est-à-dire que le logiciel libre, c'est le logiciel donc déjà que vous pouvez étudier. C'est-à-dire que vous avez accès au code, donc accès aux informations, vous pouvez regarder comment il fonctionne. Après, vous avez la liberté de le modifier. Donc de le modifier, ça veut dire que vous pouvez aller changer une petite fonction, une grande fonction, comme vous voulez, en faire complètement autre chose si vous le souhaitez. La liberté aussi de l'utiliser, c'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser strictement comme vous voulez. Il n'y a pas de restrictions, que ce soit sur le type d'usage que vous avez, que ce soit personnel, professionnel par exemple. Et enfin, vous avez la liberté de le redistribuer, y compris en version modifiée. Ça veut dire que si le logiciel vous plaît, vous pouvez en faire autant de copies que vous voulez pour les donner à vos voisins, aux amis. Si vous voulez faire des modifications, vous pouvez installer le logiciel modifié sur tous vos ordinateurs. Vous pouvez aussi proposer à tout le monde d'installer le logiciel une fois qu'il a été modifié. Ça pose pas de problème. Alors pourquoi ce qui peut vous sembler très théorique, c'est important? Et ça me semble, sans doute aujourd'hui, on a pu parler de Prism cet après-midi, pardon, on a pu parler de ce type de dossier et ça devient vraiment crucial. Bah, simplement parce qu'un logiciel libre, c'est le seul logiciel que vous possédez réellement. C'est-à-dire que vous pouvez savoir ce qu'il fait, vous pouvez savoir comment il fonctionne et vous pouvez modifier. Donc vous avez un plein usage de vos outils et de votre informatique. Ce qui n'est absolument pas le cas quand vous utilisez des logiciels propriétaires qui sont... Parce que simplement, c'est des boîtes noires, c'est-à-dire que vous n'avez aucune idée de ce qu'ils font réellement, vous leur faites confiance pour qu'ils fassent ce que vous leur demandez de faire. Vous espérez qu'ils ne fassent rien d'autre non plus. Mais le jour où ils ne fonctionnent plus, ben, c'est tant pis pour vous. Si jamais ils se révèlent qu'ils font d'autres choses de manière cachée, c'est le cas de Skype par ailleurs. Je pense que de plus en plus de gens aujourd'hui savent que Skype s'amuse à regarder quels sont vos favoris dans votre navigateur, notamment pour pouvoir collecter ce type de données. Simplement, ben, c'est des boîtes noires, donc en général, vous ne le savez simplement pas. Et aussi, quand on parle quand même de politique et d'enjeux sociaux, le logiciel libre, et c'est comme ça en tout cas que le définit le fondateur du mouvement, qui est Richard Stallman, finalement, c'est trois concepts, c'est liberté, égalité, fraternité. Liberté, parce que vous pouvez faire ce que vous voulez. Égalité, parce que tout le monde a le même accès à la même information. Et fraternité, parce que c'est basé sur une logique de partage, partage de la connaissance, partage du logiciel, redistribution aux uns et aux autres de la manière qu'on souhaite. Alors maintenant, je sais bien que tout le monde n'est pas informaticien, c'est pas mon cas d'ailleurs, et donc tout le monde ne pourra pas aller regarder dans le code, ou ni pourra le modifier en tant que personne, ou même simplement vérifier ce qu'il fait. On en a bien conscience. Par contre, alors je ne le ferai peut-être pas à mon petit niveau d'utilisatrice individuelle, mais par exemple, si je suis une collectivité locale, un État, je peux, et c'est souvent ce qu'ils font d'ailleurs, vérifier ce que fait le logiciel, notamment en termes de sécurité, ça devient intéressant. Et pareil, en tant que petit acteur ou grand acteur, je peux aussi payer des gens pour faire une amélioration du logiciel, une modification qui m'intéressera particulièrement. Il y a des petites modifications qui sont faites tous les jours, mais c'est quand même aussi une liberté qui est utilisée par des acteurs qui ne sont pas tout petits. Je pense notamment au sein de différents ministères de l'État, par exemple au ministère de la Culture, où ils utilisent un logiciel de traitement de texte qui est OpenOffice, qui est du logiciel libre. Ils avaient besoin d'un certain nombre de fonctionnalités spécifiques, notamment en termes de respect de la langue française. Et donc, du coup, plutôt que de se retrouver complètement bloqué, ils ont choisi de passer au logiciel libre et de payer une entreprise pour faire les développements qui correspondaient exactement à leurs besoins. Développements qui, d'ailleurs, ont été ensuite reversés à la communauté pour que tout le monde en bénéficie. Donc, pour eux, c'est un gain en termes de fonctionnalités, parce qu'ils ont une fonctionnalité dont ils avaient besoin. En termes d'argent, c'est aussi un gain d'argent parce que comme c'est du logiciel libre, ils ne sont pas liés à un fournisseur unique, ils n'ont pas de coût de licence à payer et ça devient assez vite très rentable pour eux. Et aussi, tout le monde bénéficie plus largement parce que les améliorations qu'ils ont proposées sont disponibles pour tout un chacun. Ceux qui sont intéressés par les types d'outils, notamment sur le respect strict de la langue française et la suppression des anglicismes, peuvent tout à fait les récupérer aujourd'hui sur Internet pour les installer et les utiliser. Donc finalement, on est dans une logique de coopération et de partage qui fonctionne. Après, on pourrait citer d'autres exemples. Hein. Le logiciel libre, par exemple, il est aussi utilisé très largement par la gendarmerie nationale. Aujourd'hui, la gendarmerie est en cours de migration pour n'utiliser que du logiciel libre. Et en 2015, ce sera uniquement du logiciel libre partout. Donc ça donne une idée quand même des possibilités qui sont offertes de la maturité de ce type de logiciel. Après, et c'est intéressant aussi à voir, comme je parlais donc de ces entreprises qui pourront faire du développement pour des collectivités ou autres, le logiciel libre, c'est aussi un modèle économique aujourd'hui. C'est aussi un certain nombre d'acteurs, alors ça grandit de plus en plus. C'est une croissance à deux chiffres depuis pas mal d'années en termes d'emploi, en termes d'embauche. Aujourd'hui, on est au point d'avoir une pénurie d'informaticiens qualifiés sur ces sujets, de programmeurs en logiciel libre, parce que y a une demande telle que ça n'arrive pas à suivre. Donc c'est notamment sur des aspects plus... C'est pas forcément sur les logiciels que vous allez avoir sur votre ordinateur, ça va plus être sur des serveurs par exemple, mais aujourd'hui tout ce qui est site internet, serveur ou autre, c'est principalement du logiciel libre qui tourne dessus. Comment ces entreprises fonctionnent? Parce que ça pourrait être étonnant vu qu'elles ne font pas payer leur logiciel. C'est un modèle d'abord de... C'est d'abord un modèle de vente de services. Donc ça va être soit du développement de logiciels pour un acteur qui a besoin d'un développement spécifique. Après, ça va aussi être beaucoup de la formation, par exemple. Ça va être du déploiement, de la maintenance, de l'organisation. Ce qui, en fait, est le cœur de métier de la plupart des entreprises informatiques aujourd'hui. Même une entreprise comme Microsoft, en réalité, le coût des licences, c'est moins de 10% de ses revenus. Là où ils se font vraiment de l'argent, c'est tout ce qui est autour du logiciel, donc autour des services. Et donc, finalement, le logiciel libre fonctionne aussi sur ces bases-là. Et c'est aussi, donc pour les clients, là, par contre, de ces entreprises, un modèle intéressant, parce qu'elles ne sont pas liées à un fournisseur unique. Elles ont le logiciel, elles le possèdent réellement. C'est pas simplement une licence qui est un simple droit d'usage, au final, qu'elles ont, mais le logiciel peut en faire ce qu'elles veulent. Donc, ça veut dire que le jour où le fournisseur ne lui convient plus, elle peut passer à un autre fournisseur sans avoir à changer quoi que ce soit dans son système informatique. Ça veut dire que le jour où un fournisseur met la clé sous la porte, elle peut en trouver un autre. Elle se retrouve pas complètement bloquée, par exemple, par des formats de fichiers qui se deviennent complètement inexploitables. Donc, c'est un certain nombre d'avantages comme ça qui sont réels et importants. Donc, Donc voilà pour la théorie. Peut-être expliquer pourquoi. Bon, ça peut sembler très théorique, mais il y a aussi un aspect politique, et aussi politique au quotidien aujourd'hui. C'est que, alors, ce modèle, il semble intéressant. On peut se demander pourquoi est-ce qu'il n'est pas adopté partout. Pourquoi est-ce que c'est pas tout. Enfin, pourquoi est-ce que on a encore. Déjà, on entend aussi peu parler. Et pourquoi aussi l'État ne l'a pas adopté ou autre. Alors aujourd'hui, malheureusement encore, on a un écosystème politique, juridique, qui n'est pas forcément favorable au logiciel libre, qui en est même plutôt défavorable, même si ça évolue. Alors c'est notamment en termes de verrouillage. Alors par exemple, les verrouillages sur tout ce qui est œuvre musicale, DVD et autres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, enfin, vous avez peut-être remarqué qu'on exige un lecteur particulier pour pouvoir lire un DVD, pour pouvoir regarder de la musique, pour pouvoir écouter de la musique en ligne, etc. Donc c'est avec ce qu'on appelle des DRM, donc c'est des Digital Rights Management. En fait, c'est des menottes numériques qui passent en fait tout ce qui est œuvre, donc culturelle, un simple droit d'usage de la même manière, qui est limité et encadré par les logiciels que vous avez. Et donc concrètement aujourd'hui, ça veut dire qu'un utilisateur de logiciels libres va souvent avoir beaucoup de mal à pouvoir ne serait-ce que acheter légalement de la musique sur Internet, parce que on lui dit « Ah non, vous utilisez du logiciel libre, donc c'est non ». Pareil pour regarder un DVD, pour regarder un Blu-ray, même si vous avez un lecteur compatible sur votre ordinateur, ça va être difficile. Et là où ça devient encore plus complexe, et on touche vraiment au droit et à la politique, c'est que non seulement c'est les compagnies ne veulent pas que vous les utilisiez du logiciel libre, mais en plus, le droit vous interdit dans une très large mesure de contourner, on va dire, ces menottes que les compagnies vous mettent pour pouvoir simplement regarder un DVD que vous avez acheté dans le commerce. Donc on a beaucoup comme ça de limitations, de verrouillages qui sont très présents aujourd'hui. Alors on pourra en citer d'autres, notamment sur les brevets sur le logiciel. Je pense qu'on a tous entendu parler aujourd'hui des grandes guerres que se mènent Apple contre Samsung, Apple contre d'ailleurs le reste du monde, pour empêcher qu'on puisse utiliser les mêmes concepts que simplement que ce soit pour des smartphones, que ce soit pour des ordinateurs, des logiciels, ce qui pose un grand nombre de problèmes, ce qui remet même en cause le principe que les idées soient de libre parcours, que les idées, on peut les partager comme on veut. On a beaucoup de difficultés là-dessus aussi. Après, on a quand même un tout petit rayon de soleil, et je vais terminer là-dessus, parce que le temps passe vite. C'est donc avec les dernières lois sur notamment l'enseignement supérieur et recherche, où enfin, on a eu une disposition législative qui a été votée, donnant la priorité au logiciel libre, bon, simplement pour le service public de l'enseignement supérieur. Mais malgré tout, on a quand même. On a quand même. Oui, sur tout ce qui est éducation nationale, on a perdu, malheureusement. Il y a eu un lobbying absolument intense et énorme de la part de toutes les grandes compagnies de logiciels privateurs pour empêcher qu'il y ait la priorité au logiciel libre. Mais c'est passé quand même sur l'enseignement supérieur, C'est une première étape qu'on peut espérer concrétiser, mais donc un combat qui reste à suivre et à mener, et qui sera sans doute encore plus important avec tout ce qui est culture et acte de l'exception culturelle qui arrive. Et voilà, je laisse la parole.
Alors, merci beaucoup. On va faire un très grand raccourci par rapport à ce qui était prévu, pour passer directement à Yann. Parce qu'en fait, on a des problèmes de connexion avec Kalimac qui est au Canada. Donc, on refera avec lui un MOOC en direct qui sera vraiment avec des vraies connexions Internet et ça se passera beaucoup mieux. Donc, je vous invite quand même à aller regarder sur Internet la proposition qu'il a faite pour une réforme du droit d'auteur qui est un énorme travail et qui répond à beaucoup de questions et qui reprend beaucoup de choses que nous, on porte et qu'on a porté depuis longtemps. Donc, je vous invite à regarder ça. Sandrine Bélier reste à sa fête et donc on va aussi passer ce morceau-là, mais je pense que c'est un sujet qui est quand même assez bien connu chez les écolos, tous les abus des brevets qui sont posés sur tout et n'importe quoi. Jeanne en a parlé à l'instant. On sait que c'est pas uniquement sur les logiciels, on sait bien que ça va aussi sur les gènes, sur tout ce qui est découverte médicale, sur les semences, on a José Bové qui se bat là-dessus depuis des années, mais pas que lui. Et donc voilà, et donc au-delà de ça, au-delà on a l'impression que dans ce système qui nous offre une abondance folle, que ça soit au niveau numérique ou dans ce que pourrait être la biodiversité si on arrêtait de la détruire, on peut s'en sortir par le haut, et c'est tout le travail qu'essaie de mener Yann Mouillet-Boutan, qui va nous expliquer. Comment il pense qu'on peut s'en sortir ?
Je ne vais pas vous faire l'apologie idiote des nouvelles technologies comme ça. Mais d'abord, j'ignorais un peu le format exact de la chose. Donc, si vous voulez, je vais vous grosso modo développer trois points. Une introduction, pourquoi ça me paraît très très important que les écologistes mettent les questions numériques au cœur de leur plateforme politique. Deuxième point, comprendre ce qui est en train de se passer globalement avec la révolution numérique, les problèmes de droit de propriété, les nouvelles clôtures des pays, les questions de sécurité. Et enfin, faire une liste de préconisations sur les nouveaux biens communs de la citoyenneté dans le domaine du numérique. Alors, j'en viens d'abord à, si vous voulez, un peu une introduction. Il y a un triple contexte. Il y a d'abord un contexte de société sécuritaire. Du rapport Perfit au dernier borborygme d'Emmanuel Valls, en passant par le 11 septembre, il s'est passé un certain nombre de choses et l'obsession sécuritaire progresse de jour en jour et malheureusement elle avance armée, cuirassée de technologies numériques. Et donc, elle provoque, si vous voulez, un double réflexe qui est mauvais. Le premier réflexe, c'est la peur, donc la peur de la technologie en soi. Donc, on ne veut pas rentrer dedans. Et un deuxième réflexe, c'est un réflexe, hélas, fort dans notre culture à nous, qui n'existe pas dans les pays anglo-saxons, c'est « Papa État est là et va nous protéger ». L'État nourrice va nous protéger sans aucune considération pour les droits des citoyens, les droits des libertés, sachant que les libertés, depuis le début, depuis la Magna Carta de 1200 et des poussières, jusqu'à la Révolution française, ça se défend, ça se conquiert, et c'est des espaces de liberté. Alors le deuxième point, c'est que faut dire que le pauvre George Orwell est complètement dépassé. C'est pas du tout, quand il a écrit 1984, le numérique n'était pas là, mais si vous regardez les questions de déluge de données, le développement foudroyant du cloud computing. Par exemple, je suis sûr que vous ignorez quelle est que la plus grande entreprise de cloud computing au monde, celle qui tire l'essentiel de ses revenus de ça, eh bien, ce n'est rien d'autre qu'Amazon. Depuis les scandales d'Echelon, de Prism, de toutes les formes d'utilisation, de retraçage des gens, avec des logiciels de reconnaissance, des visages, des formes, etc., on voit que le numérique s'est immiscé dans la vie quotidienne et a fait voler en éclats les partages traditionnels sur lesquels s'était construit la notion du citoyen qui avait un espace privé, de l'individu qui était protégé et du marché et de l'État. Et ça, malheureusement, c'est quelque chose qui a tendance à voler en éclats. Mais rien n'arrive et les tableaux catastrophistes m'exaspèrent. En fait, ce que vous voyez, qui s'imposera beaucoup plus si on prend la décennie qui s'est écoulée, c'est la puissance des nouveaux espaces de liberté qui se sont révélés et qui sont utilisés. Ce que j'appellerais les multitudes en mouvement et le numérique. Ce que j'ai appelé, dans un truc qu'on a fait au Brésil il y a deux ans avant les événements brésiliens, Révolution 2.0. De l'éviction d'Aznar en Espagne, qui avait conduit la victoire Zapatero par des SMS, à la contestation brésilienne ces derniers temps, qui, je vous signale, inclut les méga événements sportifs de la Coupe du Monde, des Jeux Olympiques, aux printemps arabes en mettant des pluriels et en saisonnalisant des printemps qui peuvent devenir des automnes ou des hivers glaciaux. De toute façon, ce qu'on voit, c'est la puissance extraordinaire du numérique. Et la puissance extraordinaire du numérique, non pas celle paralysante des entreprises qui vous surplombent, mais celle que les gens peuvent obtenir en s'en emparant, c'est-à-dire en créant des Fab Labs partout, en utilisant, il y a même des gens qui ont découvert que la façon la plus intelligente d'aider la résistance syrienne, c'était non pas, comme au temps de la guerre d'Espagne, de prendre son fusil, sa kalachnikov et d'aller faire le zouave, comme font certains islamistes, mais beaucoup plus intelligemment de, par exemple, se démerder pour que le gouvernement syrien ne traque pas, par des moyens d'ailleurs, des logiciels en grande partie français, comme on l'a vu dans la révolution verte en Iran, ne traque pas les opposants et ne traque pas toutes les sources de résistance. Alors, si vous voulez, autrement dit, il y a un véritable espace, il y a un espace numérique, il y a un espace de création, de créativité, qui est lié, on le verra, comme ça a été dit précédemment, à un travail des fourmis, des abeilles, des multitudes, beaucoup plus qu'à des gros, ce que Félix Guattari, qui a cité André, aurait appelé un travail moléculaire par opposition au molaire, paralysant. Il y a tout un espace, et je dirais, alors là, pour parler aux Journées des Verts, il y a un espace politique pour les Verts. Pourquoi il y a un espace politique pour les Verts? Ben, parce que, d'abord, moi j'ai signé l'appel du Front de Gauche numérique. Pourquoi? Parce que je me suis aperçu que le seul point sur lequel la gauche tricolore, hein, disons les écolos, les socialistes et le Front de Gauche, avait des choses à apporter, nouvelles, un vrai programme, et était d'accord, c'était le numérique. Tout le reste, on a des divergences colossales. Avec les socialistes sur certains sujets, avec le Front de Gauche sur l'Europe ou sur la souveraineté nationale, mais de toute façon, c'est un espace qui unifie une gauche qui déborde largement les verts, comme dirait mon ami Noël, les verts verdâtres. L'autre chose aussi, c'est que la France est un pays où la contre-réforme catholique l'a emporté face à la réforme protestante. Ce qui veut dire que, aussi bien la gauche que la droite a une sorte d'étatolatrie, c'est-à-dire ils pensent que l'État, c'est toujours très bien, que quand l'État intervient, c'est merveilleux, que l'État va mettre de l'ordre dans les grandes entreprises. Or, l'État est à cul et à chemise avec de très grandes entreprises, non seulement des groupes champions nationaux, mais des groupes du CAC 40, la finance internationale. Et donc, il ne faut pas attendre trop de l'État, il faut s'en servir, mais penser que les questions d'espace de liberté sur l'Internet viendront en se remettant à maman État est une bêtise. Alors maintenant, j'en viens à mon deuxième point, qui est au fond l'explication de pourquoi le numérique s'impose maintenant au centre des choses. Bien d'abord, parce que la révolution numérique est en train d'infliger aux vieilles clôtures, aux droits de propriété classiques, au système des droits de propriété du capitalisme industriel, de lui infliger des coups terribles. On sait que dans le passage de la révolution mercantiliste, enfin du mercantilisme au capitalisme industriel, la question des droits de l'individu, de la propriété individuelle avait compté beaucoup. Et je pense que dans le passage aujourd'hui à un autre type de capitalisme que j'appelle cognitif, que vous pouvez l'appeler informationnel, je m'en fiche, c'est la question des droits de propriété dans le domaine du numérique est absolument vital et détermine énormément de choses. Alors, il faut dire que le passage à ce troisième capitalisme est complètement impliqué dans la révolution numérique. Ce qui veut dire que, si vous voulez, penser la technique, penser le devenir du capitalisme et penser les espaces de pouvoir qu'on peut conquérir en utilisant, en s'appropriant à un niveau massif les technologies numériques, c'est un enjeu de première classe. Alors, si vous voulez, pour dire très vite, parce que je vais donner un peu le cœur de mon argumentation, il y a un déclassement, la marque, le droit d'auteur, les brevets, c'était ce qu'on appelle des immatériels codifiables. On les codifie en titres de propriété. Et cette codification, ça marchait avec un système marchand. C'était pour permettre de mettre sur le marché des biens immatériels qui ne peuvent pas d'habitude se mettre sur le marché comme des biens classiques. Si je vous donne une bouteille d'eau à boire, moi je n'ai plus la jouissance de la bouteille d'eau. Si je vous enseigne des choses, je peux les partager indéfiniment et ça se multiplie et il n'y a pas d'usure. Et bien ça, c'est une des caractéristiques qui fait que les biens immatériels et les biens numériques sont difficiles à marchandiser classiquement. Et la conséquence donc qu'il y a, c'est qu'elle est double. Les biens immatériels de type droit de propriété intellectuelle se sont trouvés déclassés, sont rendus obsolètes par le système technologique et ne valent des clopinettes, ils valent plus grand chose. Et donc il y a un déclassement de ces biens, mais du coup ce qui est apparu, c'est des choses que moi j'appelle des immatériels 2, un peu plus compliqués, non codifiables. Alors, je vous en prendrai pour faire la liaison, nous sommes un parti écologique. Ben, par exemple, la biodiversité est l'exemple même de quelque chose d'incodifiable. Dans un système complexe, fragile, la biodiversité, la multiplicité des espèces n'a pas de prix, au sens strict du terme. Elle n'a pas de prix parce que c'est la condition de survie des possibilités d'évolution du futur et du système futur et de sa résistance à des événements imprévus, catastrophiques. Eh bien, dans le domaine, si vous voulez, qui n'est pas le domaine de l'écologie mais du numérique, on a exactement la même chose. Il y a des choses qui ne se codifient pas. Vous pouvez codifier la coopération entre les individus, hein, ça s'est appelé le taylorisme, vous dites à un tel, toi tu fais ci, toi tu fais ça, toi tu fais ça. Mais dès qu'intervient la coopération entre les gens, la coopération, ça ne s'ordonne pas. Ça ne se codifie pas. L'amour, ça ne se codifie pas. Quand ça se codifie de façon marchande, ça s'appelle de la prostitution. Ou quand ça se codifie dans les termes du droit bourgeois, ça s'appelle le droit du divorce, de rupture de contrat. Donc, si vous voulez, il y a des incodifiables. Et ces incodifiables, comme l'intelligence collective, ce sont le cœur maintenant de métier. C'est la chose qui a le plus de valeur. Conséquence, on a un nouveau modèle de capitalisme qui a compris que c'était ça qu'il fallait capter. Il fallait capter les incodifiables, les choses, par exemple, les goûts des gens, les singularités. C'était ça qui avait de la valeur. Et c'est là où intervient le numérique. Bien sûr, on savait que ces choses-là avaient de l'importance. Et depuis toujours, le bon sens traditionnel estimait qu'il y a des tas de choses qui n'ont pas un prix marchand, mais qui sont placées dans l'échelle des valeurs au-dessus de l'échelle marchande. Mais on n'avait pas de moyens, si vous voulez, de capter, par exemple, la coopération, le talent, etc. Eh bien là, avec les moyens du web 2.0, c'est-à-dire les tags, les blogs, l'interaction, les cookies, etc., vous captez ces éléments. Et quand vous les captez, eh bien, vous devenez les champions du capitalisme cognitif, et c'est exactement ce que vous avez dans les moteurs de recherche, que vous avez dans les réseaux sociaux, que vous avez dans Twitter, etc., tous ces éléments qui sont en train de se développer. Alors, en fait, j'ai fait la comparaison de ça avec la pollinisation des abeilles pour faire comprendre que l'écologie n'est pas seulement un discours de valeur éthique et morale, mais c'est aussi l'économie de demain. C'est-à-dire que vous comprenez, quand vous avez compris que les abeilles ne font pas simplement de la cire et du miel, ce qui vaut grosso modo 1 milliard par an de dollars, mais qu'elles font la pollinisation non seulement de l'agriculture marchande, mais de la totalité de la nature sauvage, que tout simplement, ceci vous pouvez l'évaluer entre 980 et 1000 à 5000 fois, c'est 1 milliard. Donc ça veut dire que cette sphère est beaucoup plus fondamentale, et je prétends que les Amazon, Google et Cocombert ont compris cette chose-là. Ils ont compris qu'en captant dans les téléphones mobiles, dans toutes les formes d'ordinateurs, de communication dans Internet, vos désirs, vos goûts, à condition de pouvoir les tracer, de pouvoir vous prendre vos données personnelles, eh bien, ils étaient capables, par exemple, de faire marcher à plein le système publicitaire. Alors, les conséquences, si vous voulez, de ça, c'est... je cherche mes trucs, voilà. Alors, les conséquences, c'est que le vieux système des droits de propriété intellectuelle est dans la merde. Les industries culturelles sont complètement à bout de souffle. Elles n'arrivent pas à trouver des moyens, car elles multiplient les clôtures, mais elles essayent de mener des campagnes répressives, mais chaque fois, elles échouent. La technique de dire on va renforcer les droits de propriété traditionnels, ceux qui portent le nom de DAFSI, ce que tu as évoqué, les DRM, système de protection technique en français, la DOPI, la LOPSI, ACTA, tout ça, si vous regardez depuis 15 ans, c'est impressionnant comme tous ces systèmes se sont mis en place et ils ont tous échoué. Ils ont tous échoué. Pourquoi ? Parce que le haut débit, par exemple le très haut débit, est en train de pulvériser les systèmes traditionnels. Que on a interdit Napster, mais après Napster, il y a eu le streaming, après il y a eu tous les moyens de si vous voulez, de tourner les dispositifs, les vieux dispositifs. Et puis, de l'autre côté, il y a une branche du capitalisme qui veut absolument ce décloisonnement. Et c'est justement les leaders, comme par hasard, du CAC 40 et de la capitalisation boursière mondiale. Ils veulent du décloisonnement de tout ce que vous faites, ça doit être accessible, ça doit passer dans les canaux, ça doit pouvoir se tracer, mais eux, ils veulent créer des systèmes où ils vous captent, ils vous enferment. Apple avec son système d'écosystème, dans lequel vous êtes enfermé, mais également Google qui a des prétentions de gérer la totalité du monde et qui d'ailleurs est en train d'obtenir un monopole avec Android absolument extravagant des systèmes d'exploitation des ordinateurs. Et donc, cette stratégie de décloisonnement total porte un nom, elle s'appelle l'open source. Mais c'est pas du copyleft. C'est pas du copyleft, l'open source. L'open source, c'est la liberté pour les industriels de pouvoir utiliser toutes les richesses que vous trimballez et de pouvoir dépouiller les communautés paysannes, voire Vandana Shiva, qui avait par exemple fabriqué, qui avait cultivé et mené à bien depuis le néolithique jusqu'à 27 variétés de maïs au Mexique. De pouvoir les recréer, de vous les coltiner avec un brevet à prendre ou un certificat d'obtention végétale, de vous le vendre ou comme les OGM. Donc on a cette tentative de brevetisation démesurée de tout, tout en réclamant, ces firmes se réclament de l'accès de tout le monde. Sauf qu'elles ne posent jamais la question qui a été posée, que pose April, la question des droits de propriété, du droit de suite. Alors j'en viens maintenant... si vous voulez, à la triple guerre qu'on a. Actuellement, on a la triple guerre, une guerre contre les internautes du libre, le logiciel libre étant des fauteurs de troubles, des nouveaux communistes, pour reprendre les expressions de l'ancien PDG de Microsoft, tout ce qui décloisonne, crée des espaces communs, ça devient autant d'obstacles à l'instauration d'une norme marchande. Donc vous voyez bien pourquoi on fait la guerre contre l'industrie des disques, fait la guerre contre la circulation de la musique gratuite. Parce qu'évidemment, pour vendre des CD après, c'est plus difficile. Récemment, si vous prenez l'article du 15 août de rue 89, les annonceurs se révoltent contre les extrémistes de Firefox. Firefox a demandé de véritablement faire le tri dans les cookies et en particulier de bloquer des cookies qui sont tout simplement la captation de vos données personnelles, de ce que vous fabriquez sur votre ordinateur et des derniers sites avec lesquels vous vous êtes connecté, grâce auxquels après on fait de la publicité dédiée et on vend ça aux annonceurs. eh bien, les annonceurs ont hurlé exactement comme ont hurlé les groupes quand on a parlé de donner la priorité au logiciel libre dans l'ensemble de l'enseignement français. La deuxième chose, c'est la guerre contre les garanties classiques de la protection de la vie privée qui font obstacle au stockage des données personnelles et pour la création, au fond, de monopoles géants du cloud. Alors, je poursuis. Alors, comment réagir? Alors, premièrement, il faut qu'on écarte les voies sans issue, j'en ai dit une. On ne peut pas vouloir rayer de la carte le capitalisme cognitif, celui-ci, il est déjà hégémonique. Si vous voulez, c'est absolument aussi ridicule que si vous aviez dit au moment, au XIXe siècle, au moment de la naissance de Krupp et de Bethlehem Steel, oui, revenons au fourneau à bois. Donc ça, c'est idiot. Donc ça ne marche pas. Deuxième idée, c'est ceux qui s'imaginent qu'une reprise en main de l'Internet par les États souverains réglerait les problèmes. Et je vais vous dire pourquoi c'est vraiment important, parce que la CNIL, émanation de l'intelligence de l'État français, etc., et d'une tradition pas trop favorable quand même à toutes les grandes entreprises, avait émis quand même des normes assez draconiennes sur la fabrication, la conservation de fichiers avec des données nominatives, en contraignant les entreprises à déclarer les fichiers nominatifs numériques et en les obligeant à, par exemple, à ne pas les garder. La CNIL a obtenu de Google que Google passe de 3 ans de conservation des données à 9 mois. Bon. Mais, et la CNIL a été généralisée au niveau européen, il y a 27 CNIL, 28 maintenant avec la Croatie, il y a une CNIL par pays sur le modèle de la CNIL française. Malheureusement, ça ne suffit plus. C'est-à-dire que, ou c'est ce qu'a demandé Viviane Reding et ce qu'a fait le Parlement européen avec la lutte contre ACTA et qui a réussi à empêcher ACTA, et j'espère qu'on aura le même résultat sur AMI, la négociation de libre commerce avec les États-Unis, qui veulent venir à bout par le biais d'AMI de ces limitations européennes contre la brevetisation des logiciels, contre ACTA, etc. Eh bien, on se rend compte que il n'y a qu'une solution européenne qui peut venir à bout de ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut... Attendez, je regarde là si je ne suis pas en train de sauter un slide. Non, ça va. Il faut créer... Alors, mon idée, c'est qu'il faut créer un socle de constitutionnalité des droits du cybercitoyen, dont le cœur peut commencer par le droit d'accès à l'Internet pour tous, qui est l'équivalent de ce qu'était la liberté du droit de circulation dans le Bill of Rights de 1689 en Angleterre, qui a été constitutionnalisé par la constitution finlandaise. Aujourd'hui, la lutte contre l'exclusion passe par exemple, des programmes de dotation d'ordinateurs de l'ensemble, de tout le monde, de la population la plus large possible, ce qui veut dire des programmes à 100 ou 200 euros et pas des programmes à 600, 800 ou 2000 euros. Il faut repenser complètement le droit à la vie privée, c'est-à-dire ce que j'appelle un web 3.0, en renversant le principe de l'opting out, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous ne voulez pas avoir des cookies, si vous ne voulez pas qu'on garde des traces, il faut que vous dites non, je ne veux pas. C'est l'opting out. Vous voulez vous signaler. Alors que la règle devrait être, si vous voulez, si vous acceptez de le signaler, vous êtes prévenu, on vous dit voilà, est-ce que vous acceptez ça? C'est l'opting in pour entrer dans. Donc il faut que l'exclusion de l'accès aux données personnelles devienne la règle et il peut y avoir des négociations avec les opérateurs s'ils veulent accéder. Je continue. 4. Ouvrir un débat sur la propriété des données. En particulier, quelque chose, le risque que présente le droit sui generis des banques de données. Dans les banques de données, les informations, vous savez qu'il est très difficile de coller des droits d'auteur sur des informations. Eh bien, les banques de données ont obtenu un droit qui est une vraie saloperie, qui s'appelle un droit sui generis, qui récompense l'investisseur et qui, figurez-vous, peut, chaque fois qu'il investit dans la banque de données, pour en classant des formats, etc., des formats d'ailleurs propriétaires souvent, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il reprend du droit particulier qui lui donne deux droits. D'abord, de percevoir de l'argent sur ses données, donc de les bloquer à ceux qui n'ont pas d'argent pour avoir accès à l'information, mais deuxièmement et surtout, ça, c'est encore mieux que le droit d'auteur, car ça peut se poursuivre indéfiniment. Dans le cas du brevet, au bout de 20 ans, le brevet, il tombe dans le domaine public. Là, non. En règle générale, il faut mener un inventaire des biens communs et informationnels et définir les conditions écologiques de création, de préservation de ce système, de cet écosystème instable. Je pense qu'il faut créer une agence des biens numériques comme il y a une agence de l'eau. Il faut protéger ceux qui luttent pour la transparence, comme Assange, Snowden, ça on en a parlé tout à l'heure, enfin on a fait une superbe vidéo. Et je terminerai en parlant de deux choses. Bien comprendre que l'open knowledge, l'open data et l'open source, ça n'est pas la même chose. L'open data, ça désigne les modalités de traiter le problème du big data numérique et le résultat du traitement des données. Et par traitement, il faut entendre les règles d'élaboration, d'accès, de conservation des informations. C'est le problème de l'archive numérique et il est insensé qu'aucun des États n'ait traité ce problème. Je vous rappelle que la BN, la Bibliothèque nationale, a été créée sur cette question de conserver les documents, avec aussi un projet de censure, mais là, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Il faut aussi soulever la question de l'interopérabilité des fichiers, et là on tombe directement sur la question, le point doc, le point docx est une saloperie, vous n'avez aucune garantie dans le futur que ça va marcher. C'est exactement comme si on vous vendait une bagnole l'année 1, et qu'on vous dise, vous savez, la troisième année, peut-être que l'essence qu'on met dedans va changer, et votre moteur, il ne pourra plus marcher à cette essence. C'est à peu près ce genre de choses. Donc, les possibilités d'indexation, l'interopérabilité des fichiers, le type de logiciel, tout ça, il devrait y avoir une agence qui réglemente, exactement comme le département des mines, vérifie que les opérateurs automobiles ne mettent pas les essieux de bagnoles, les uns à 2 mètres du sol, les autres à 1,50 m, les autres à 1,20 m, et les troisièmes à 60 cm. Donc, il faut faire ça. Et il faut évidemment soulever les problèmes d'accès et les problèmes de gratuité. Ce sont les problèmes de la pérennité également des supports. Alors, l'open data est du ressort de la législation sur les équipements, la sécurité, la protection de la vie privée, mais les questions de données ouvertes ou publiques, l'open data gouvernementale et locale, est également l'affaire de la délibération publique, dans la mesure où le secteur privé multiplie des accords inter-entreprises et de partenariats d'entreprises à travers le cloud computing et les plateformes collaboratives qui restreignent le domaine public. Il faut donc se méfier de l'open innovation et de l'open source si elles sont accompagnées d'un maintien des droits de propriété intellectuelle traditionnels et d'une conception patrimoniale des immatériels de l'État. Et enfin, je termine par ceci. Il faut travailler, à mon sens, à une Magna Carta des droits de l'homo numericus et des libertés du cybercitoyen. C'est ce rare domaine sur lequel les Verts seraient capables d'entraîner et le PS et le Front de Gauche, et à mon avis rallier des gens, y compris des modems et des UMP qui ne sont pas complètement fachos. Et puis, c'est également, je dirais, la forme de lutte efficace contre les nouveaux modèles marchands et étatiques du numérique qui, comme ça a été souligné, trouvent dans le numérique un multiplicateur prodigieux. Merci.
Bien. Alors, en fait, je ne sais pas exactement à quelle heure ça ferme. On risque de se faire virer. Et nous, on vous voit très mal. Il y a beaucoup de lumière. Mais s'il y a des questions, il faut vous approcher.
Au Marseille, vous êtes là?
Ouais. Oui, bonjour. Je suis Patrick, je suis militant à Toulouse. Et j'ai une question, en fait, je vous ai entendu tous les trois. Ce que j'ai retenu finalement, c'est que bon, il existait l'open source, l'open data, etc. Mais j'ai pas l'impression qu'on ait les armes vraiment pour lutter contre des entreprises comme Google ou Microsoft. J'ai l'impression qu'on peut plus résister que vraiment lutter à armes égales. Et du coup, je voulais savoir, au niveau politique, qu'est-ce qu'on pourrait faire, quoi. J'ai l'impression qu'on peut utiliser l'arme entre guillemets juridique. L'arme juridique au niveau national, même si on fait une loi en France, une entreprise aux États-Unis sera pas forcément sous le joug de cette loi, donc elle en fera fi. Je veux dire, au moins, elle pourrait aussi le faire de façon détournée, comme on a vu dans le scandale de prison. Du coup, je voulais savoir si vous aviez, peut-être qu'il existerait une solution au niveau droit international. Je ne sais pas, peut-être que quelqu'un y a pensé ou pas du tout. Ou alors, est-ce que vous connaissez une solution qui permettrait de vraiment faire perdurer l'open source et l'open data, quoi.
Oui, moi je voudrais parler d'un exemple sur lequel j'ai pas mal travaillé. Ça concerne les jeux vidéo. Il se trouve que je sors un rapport en septembre du Sénat d'études sur l'industrie du jeu vidéo. Et alors les jeux vidéo ne sont pas régis par les droits d'auteur conventionnels avec les sociétés de perception des droits d'auteur. Ils sont sous le principe du copyright. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'ils sont protégés par des DRM. On arrive quand même à pirater des jeux vidéo assez facilement. L'industrie du jeu vidéo vend ses produits très vite parce qu'ils ont une obsolescence très rapide. Le matériel évolue très vite. Et dans la quatrième génération de consoles qui va sortir dans les mois qui viennent, ça se passe entre Microsoft et Sony, il y a eu deux systèmes qui se sont complètement affrontés. Et ce sont les consommateurs qui ont eu le dessus. C'est-à-dire que je crois que c'est la Xbox qui voulait vous utilisiez des jeux vidéo, vous payez pour ça, vous les achetez en ligne maintenant, de manière dématérialisée, mais vous aviez obligation, sous prétexte de mise à jour, d'être perpétuellement connecté. Donc ça permettait de contrôler l'utilisateur, c'est-à-dire que vous achetiez un produit, mais vous ne pouviez pas le prêter, le donner ou le revendre. Moi, j'ai fait un gros travail sur l'industrie du jeu vidéo en France et au Canada. Et avec d'ailleurs les gens, une grande partie des gens de l'industrie du jeu vidéo, on s'est rendu compte que les jeux en boîte, ceux qu'on achète sur les consoles traditionnelles ou même les jeux qu'on achète en ligne, ils ont un intérêt parce que quand on a fini de jouer, qu'on a terminé de jeu, on peut les revendre. Et il y a un second marché qui rend ces produits qui valent entre 40 et parfois 70 euros, qui sont très chers, qui touchent un public jeune, mais de moins en moins jeune, mais un public qui n'a pas toujours l'argent. Ça permet de refinancer en revendant à prix moins élevé, bien sûr, l'achat de la nouveauté. Et en même temps, ça permet à d'autres gens d'accéder à ce produit de manière bien moins élevée, à des prix de 15, 20 euros, voire moins cher. Et que toute l'économie, si on entrait dans un système totalement propriétaire, délimité, clôturé, allait effondrer le jeu. Et un certain nombre de gens ont commencé des études, surtout quand il y a eu l'opposition là, sur les deux consoles, celle de Microsoft et celle de Sony. Eh bien, celle qui a dit moi, je ne demanderai pas la connexion en ligne permanente et la protection, l'a emporté, ce qui fait que la seconde a été obligée de se mettre à cette norme du marché qui est la norme des utilisateurs. Ça, pour moi, je crois, le pouvoir des utilisateurs et entre guillemets, du marché des usagers est extrêmement important. Et puis, un autre domaine aussi sur lequel je me suis beaucoup battu contre la SACD, donc la Société des droits d'auteur de l'audiovisuel, du cinéma notamment. La SACD voulait mettre la main sur l'industrie du jeu vidéo et les faire entrer dans le système des droits d'auteur. Et plusieurs travaux ont été faits, et on voit très bien que la création d'un jeu vidéo, ça implique tout un tas de gens. Ce n'est pas une création individuelle, c'est une création collective. Et on a discuté avec les industriels, qui, eux, n'avaient pas envie de reverser particulièrement de droits d'auteur, mais avaient envie de fidéliser les gens qui travaillent chez eux, parce que ce sont des gens qui ont des hautes compétences. C'est un système, c'est l'industrie la plus mondialisée, la plus concurrentielle aujourd'hui, avec des évolutions technologiques très fortes. Et le principe aujourd'hui, qui est déjà mis en place par plusieurs sociétés, comme Ubisoft, Electronic Arts ou Activision, mais qu'on tend à développer et qu'on tend à mettre en charge, c'est un système d'intéressement. C'est-à-dire, quand le jeu marche, eh bien, effectivement, comme ces produits ont une durée de vie courte, parce que si vous prenez un jeu vidéo qui était sous une ancienne console aujourd'hui, il n'y a plus aucun intérêt à être perduré. Un jeu vidéo, ils vont 80% de ses ventes se font dans le mois de sa sortie. Donc, il a une obsolescence très forte. S'il marche, eh bien, il y a un système d'intéressement qui est mis en place vis-à-vis des équipes, pas simplement d'un pseudo-créateur, parce qu'il n'y a pas de créateur, c'est un travail collectif. Et je crois que la musique et la littérature est aussi un travail collectif. Personnellement, moi, j'ai toujours refusé les droits d'auteur sur les livres que je faisais. Je préférais qu'on me verse
un salaire ou une somme pour produire le livre, qui correspond à un travail que je qualifierais d'agencement et de réagencement, parce que si j'ai la grande intelligence d'apporter 1% d'intelligence supplémentaire à tout ce qui a été produit par l'intelligence collective, je suis déjà un génie. Alors comme je ne suis pas un génie, je ne pense pas que j'ai un droit de rente. Et la vraie difficulté, parce que ça on ne l'a pas assez évoqué, c'est que à travers la possession des contenus et le contrôle des contenus, notamment par les grands opérateurs d'Internet aujourd'hui, qui s'approprient le travail que vous faites sur les Google Group, Google est copropriétaire de vos contenus, si vous lisez. Donc vous ne pouvez même pas les utiliser librement, et il a des droits d'auteur sur ce que vous produisez. Eh bien, cette logique-là n'est ni plus ni moins qu'un retour à la vieille économie de la rente, et qui est à 70 ans pour tout un tas de produits hors année de guerre, mais qui peut devenir, comme le disait tout à l'heure Yann, éternel sur les bases de données. Donc je pense qu'on a une vraie réflexion sur qu'est-ce que le droit d'auteur, et souvent le droit d'auteur se substitue à une vraie reconnaissance du travail que produit le créateur, l'artiste, ou ce que je préfère dire, le réagenceur intelligent d'un savoir qui est collectif, commun et historique. Enfin, je pense que Yann a quelques idées là-dessus.
Non, je voudrais revenir sur la question qui était posée, qui était que pouvons-nous faire face à Google, à Amazon, à Apple, à plein de gens, à Microsoft. Eh bien, il faut... Détrompez-vous, on peut beaucoup. On peut beaucoup si on le fait à l'échelle européenne. Je vous rappelle que la législation européenne anti-monopole, calquée un peu sur le système américain, a été capable d'empêcher... Alors Rifkin a beaucoup discuté de ça dans son truc sur l'Europe. C'est là qu'il s'est aperçu que l'Europe existait. Elle a été capable d'empêcher des fusions qui avaient lieu aux États-Unis. D'autre part, les Européens, grâce au travail du Parlement, et en particulier des Verts, à partir du moment où ils ont bien pigé les enjeux du logiciel libre, ont arraché un échec, enfin ont obtenu un échec retentissant pour Microsoft, qui avait circonvenu les États, le polonais, le danois, l'irlandais, les petits États, et ben finalement, l'Europe est une exception, et c'est une exception cette fois-ci plus sympathique que l'exception culturelle, si j'ose dire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de brevet pour les logiciels. Et sur ACTA, c'est le même tabac, c'est-à-dire que l'Europe a réussi à empêcher que la norme américaine passe globalement. Ce sont des résultats, mais ils ne peuvent être obtenus qu'en réévaluant les choses. Ça veut dire que l'élection essentielle à venir, bon Dieu, là, dans les 6 mois à venir, c'est les élections européennes. J'adore les communes, les élections locales, le fonctionnement, machin. C'est très bien, mais dites-vous bien que par rapport au poids de ce qui se passe en Europe, c'est peanuts. Donc le point fondamental, c'est que si on renforce le Parlement et si on fait un travail fort là-dessus, on est capable d'arracher et d'obtenir des victoires sur des tas de choses. Et la question des droits, il se trouve que tous les pays nordiques sont épidermiquement sensibles à la question des droits des citoyens face aux États. Utilisons cela, utilisons cet élément pour arrachons la question des libertés et du libéralisme politique qui n'a aucun représentant en France digne de ce nom, parce que tous les libéraux français sont des gros libéraux économiques qui ne pensent qu'à une chose, c'est aux libertés de faire du fric et pas aux libertés des citoyens. Eh bien, arrachons ces éléments-là et nous consoliderons quelque chose d'intéressant qui est parfaitement compatible avec l'aile gauche de la gauche. Voilà.
Et juste pour terminer très rapidement, réponse simple, hein, qu'est-ce qu'on peut faire contre eux, contre tous ces produits? Ne pas les utiliser. Et en tant qu'individu, en tant que simple citoyen, personne ne vous oblige à utiliser Facebook, personne ne vous oblige à avoir de l'Apple, personne ne vous oblige à acheter de Microsoft. Alors je sais bien que ce n'est pas la solution la plus simple, on a la dictature de la communauté qui est très forte là-dessus, parce que c'est vrai que c'est pratique, ça marche, que ceci... Mais en attendant, rien ne vous oblige à l'utiliser. Des alternatives existent, alors que ce soit les logiciels libres pour tout ce qui est fonctionnement de votre ordinateur. Maintenant, il y a du logiciel libre sur vos téléphones aussi. Alors, c'est vrai que c'est récent, mais aujourd'hui, avec Replicant, on peut enlever, on peut prendre un téléphone Android et enlever tout ce qu'Android pour mettre du logiciel libre uniquement dessus. Pareil, avec l'arrivée là cet automne de Firefox OS, on aura aussi des téléphones entièrement libres. Donc ça, c'est possible. Et puis après, ce qui est service en ligne, type Amazon, type Facebook, type Google, d'autres alternatives existent également. Alors, c'est pas forcément les plus simples, il faut parfois aller les chercher. Mais elles sont là, elles sont de plus en plus développées, il y a de plus en plus de gens qui les utilisent. Et c'est simplement par là aussi qu'on peut agir, chacun à son niveau.
C'est pas plus compliqué que manger bio.
Voilà, ça peut représenter des contraintes, parfois c'est plus facile.
C'est moins cher.
C'est la dictature de la communauté.
Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Non. Attends, faut venir parce qu'on a peur du Larsen.
Surtout, on voit rien. Ah ouais, ça va, maintenant,
on tombe. Oui, parmi les. Donc, d'abord, merci pour tous ces propos et qui enrichissent, et pour ceux qui sont là depuis 9h du matin. Voilà, on continue à carburer, c'est bien. Parmi les éléments de réponse et d'enjeux, est-ce que derrière c'est pas plutôt un vaste plan d'éducation au numérique, éducation à la culture numérique, pas sur une dimension, sur des compétences manipulatoires, pas juste savoir manipuler tel ou tel outil, mais quelle est la culture, qu'est-ce qui se cache derrière tout ce que vous nous avez dit. Là on est quelques insiders, quelques gens qui sont là depuis encore une fois ce matin, courageux à 10h du soir à vous écouter, on y croit déjà, finalement on était déjà plus ou moins convaincus de ce que vous nous dites. Vous nous éclairez, mais voilà, on est déjà convaincus. Mais finalement, tout le reste de la population. Je prêche un peu pour ma paroisse. Moi, je représente un réseau d'espace public numérique. J'ai des enfants à l'école, etc. Je me dis, voilà, ils apprennent à lire, à écrire. Ils deviennent plus ou moins citoyens. Mais est-ce qu'ils deviennent citoyens du numérique? Ils en sont très, 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 très loin, voilà. Donc, je pense qu'un des éléments de réponse par rapport à tout ça, ce que tu dis sur le logiciel libre, ce que vous avez dit effectivement sur ces grosses multinationales qui se sont montées, c'est accéder à une culture numérique qui nous permet de faire des choix. Voilà. Moi, c'est ce sur quoi je milite dans mon réseau, c'est permettre aux citoyens, aux habitants, à la population de faire ses choix. Voilà, quand je participe à des ateliers ou sur Facebook, il y a des ateliers autour de Facebook, autour des réseaux sociaux, et essentiellement sur Facebook. On leur demande aux gens, est-ce que c'est gratuit? Évidemment, les gens, spontanément, ils me disent, oui, l'usage est gratuit. Après, vous leur montrez une ferme de serveurs. Voilà, il y a 2000 serveurs, vous dites, chacun vaut 30 000 euros. Ça coûte, qui c'est qui paye ça? Les gens ne s'étaient jamais forcément posé la question. De quel est le modèle économique, quel est l'écosystème, etc. Comme tu dis aussi, c'est pratique, ça marche bien. Pourquoi se poser des questions? Ça fonctionne. Voilà. Donc je pense qu'il y a un véritable enjeu européen, même mondial, mais européen, à mettre en œuvre une véritable politique d'éducation au numérique, à la culture numérique. Pas, encore une fois, à la technologie, pas à l'outil numérique, mais à la culture numérique. Merci.
Juste là-dessus, c'est d'ailleurs pas un hasard. C'est pourquoi, quand on a eu le projet de loi donc, sur la refondation de l'école, qu'on a eu à une époque une disposition qui mettait la priorité au logiciel libre, donc dans le cadre du service public du numérique éducatif, qu'on a eu un lobbying aussi intensif de la part de l'AFDEL, donc, qui est le syndicat, donc le lobby en réalité des éditeurs propriétaires. On a vu Microsoft, Apple et compagnie qui sont montés au créneau, qui ont même recruté l'INRIA pour le faire. Ce qui a fait pas mal de bruit en interne d'ailleurs, parce que c'est pas vraiment leur rôle de dire qu'il ne faut pas faire de logiciel libre au départ. Mais voilà, si on ne s'y trompe pas, c'est dans l'éducation.
Ils financent puissamment l'INRIA.
Oui, ils financent puissamment l'INRIA, mais c'est par hasard. Ils savent bien que c'est dans l'éducation que ça se joue. Et effectivement, ne pas simplement avoir comment on utilise Facebook, savoir déjà qu'est-ce qu'il y a derrière, et aussi de savoir quelque part comment ça fonctionne, et avoir une connaissance de base du mode de fonctionnement, de ne pas être simple utilisateur, mais aussi comprendre ce que c'est que ces outils numériques.
Oui, alors moi, je me suis trouvé dans le cadre de mes fonctions au Sénat, puisque je suis membre de la commission culture, éducation, médias, justement, à travailler sur la loi de refondation de l'école. Et c'était un débat assez rude avec le ministère, mais qui a fini par le comprendre par un bel exemple. Parce qu'effectivement, l'idée de faire un grand service public de l'éducation numérique, il y avait déjà plusieurs tentations. Le côté technologique, c'est bien, on est dans la modernité. Une tentation cachée qui était de dire, ben, avec les cours en ligne, certains problèmes éducatifs, les classes dispersées dans les zones rurales, ben, on va peut-être se débrouiller avec des ordinateurs, il n'y aura plus besoin d'investir dans des enseignants. Et puis, il y avait une indéfinition complète de qu'est-ce que c'était cette éducation numérique, et on en revenait au bon vieux cours d'informatique où un prof essayait d'expliquer comment ça marche, une mémoire centrale, comment on va...